Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast produit par France Télévisions. Le podcast des maternelles est aujourd'hui pour parler d'un sujet fort, ou plutôt pour écouter un témoignage très fort, celui de Clotilde. Clotilde, déjà mère de famille, qui a décidé d'adopter trois enfants en situation de handicap. Donc l'altruisme à l'état pur, mais vous allez l'entendre, ce témoignage de Clotilde qui se dégage une vraie force, comment on passe d'une famille déjà importante à une famille nombreuse, avec en plus à gérer les différents handicaps. Donc on va entendre Clotilde, et puis après, nous serons avec une pédopsychiatre qui nous livrera son analyse de ce témoignage forcément marquant. Vous allez l'entendre. Voilà, on espère que vous êtes en pleine forme pour écouter cet épisode du podcast des maternelles avec Agathe Le Caron. C'est parti.
En France, il y a plus de 3200 enfants qui sont considérés comme pupilles de l'État. Parmi eux, un tiers présente des besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 5 ans, ils sont malades ou porteurs de handicap. Et évidemment, très peu de familles envisagent leur adoption. Et Clotilde, vous avez fait ce choix. Vous, bonjour. Merci d'être avec nous dans la Maison des Maternelles. Alors, vous aviez déjà 6 enfants biologiques, donc 6 enfants à vous, quand vous avez décidé avec votre mari Nicolas d'adopter Marie Garance et Frédéric, 3 enfants handicapés qui, il faut le dire, sans vous, auraient certainement passé leur enfance dans des institutions. Vous avez raconté votre première adoption dans un bouquin qui s'appelle « Tomber du nid » chez Pocket. C'est une histoire pleine d'humanité que vous allez nous raconter, qui va nous faire du bien. On en a bien besoin. Alors, vous avez rencontré Nicolas quand vous aviez 20 ans. 6 mois plus tard, vous vous mariez. À 22 ans, vous êtes maman pour la première fois. Et en 4 ans, vous avez eu 4 enfants, Côme, Baudouin, Tiphaine et Marin. Et puis ensuite, il y a eu Philippine et Brune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé d'adopter alors que vous avez déjà 6 enfants ? Vous, sur le papier, vous êtes une maman comblée, voire débordée.
C'est après la naissance de Marin, notre 4e enfant, on va dire que c'est la vie qui s'est invitée. À l'époque, je faisais beaucoup de couture. Et un jour, j'étais sur ma machine à coudre et j'ai une phrase qui m'a traversée, mais c'était plus une question, on va dire, même une invitation. La vie s'invitait de façon assez étonnante et je me suis dit finalement, pourquoi on ne deviendrait pas les parents d'un enfant qui existe déjà ? Donc cette phrase, en me traversant, a immédiatement percuté mon cœur. Et puis quelques minutes après, je me suis dit, mais pose les pieds sur le parquet, est-ce que cette réalité est vraiment... est-ce que ce désir qui est en train de monter en peu de temps en moi est accroché à une réalité? Est-ce que notre situation familiale actuelle, puisque nous pouvions avoir des enfants biologiques, nous permet en France d'adopter des enfants? Et donc, après, il a fallu bien sûr en parler à Nicolas. Donc, j'avoue que j'appréhendais un peu sa réponse. Et pour la petite anecdote, c'était assez amusant parce que le jour où je lui ai annoncé, donc on était en train de manger tous les deux, il n'a même pas eu le temps de finir sa bouchée, qu'il m'a dit, bien oui, pourquoi pas. Donc on a passé un coup de fil à une association pour savoir si en effet c'était possible, vu notre situation familiale, et on nous a dit à ce moment-là qu'il n'y avait pas de souci, mais il fallait que notre agrément soit orienté sur un enfant dit à particularité.
Parce que vous aviez déjà des enfants.
Exactement. Et donc on ne savait absolument pas ce que ça voulait dire, puisqu'on avait déjà des enfants qui étaient et qui sont encore plein de particularités, et tant mieux pour eux. Et on nous a expliqué que ce terme utilisé par le département voulait dire des enfants porteurs de handicap. Alors, et là, ça a quand même été la claque.
Bah oui.
Parce qu'on est tombé dans une réalité qu'on ne connaissait pas, et je pense que beaucoup ne connaissent pas, que ces enfants, ces pupilles de la nation, en fait, on ne sait pas qu'ils existent, on ne sait pas qu'ils sont nombreux, et qu'ils attendent des familles. Donc, c'est assez troublant de découvrir.
Parfois, ils attendent toute leur vie, les pauvres
Bien
petits.
Sûr.
Alors, vous avez dit aussi, on est un jeune couple, donc on va peut-être mettre un peu notre couple à l'épreuve du temps.
Exactement.
Vous avez décidé de patienter. Entre-temps, vous avez mis au monde vos 2 petites filles, Philippine et Brune. Et puis, après 6 ans de réflexion, donc vous avez décidé de sauter le pas. Qu'est-ce qui vous a décidé, véritablement ?
Donc, comme vous dites, en effet, on a voulu quand même que cette idée qui avait embrasé notre cœur prenne un peu l'épreuve du temps, en fait. Et, puis, on avait, en effet,
seulement... C'est pas une petite décision.
Voilà, exactement. C'est une décision grave, dans tous les sens du terme. Et on avait seulement 5 ans de mariage, finalement. Et puis, quand Brune est née, quand elle avait 2 mois, on s'est dit, allez, il faut pousser les portes du conseil général. Il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller. Et puis, on voulait ne pas être trop âgé pour accueillir cet enfant. Et on avait vraiment le désir que nos enfants soient encore petits pour qu'il y ait des vrais liens de fratrie qui se fassent autour de cet enfant, pour que la greffe au sein de notre famille prenne. Mmh.
Et vous en avez parlé justement à vos enfants de ce projet, assez tôt, tout de suite ou...
Au début, non, et on a bien fait, parce que de toute façon, c'était une maturation de couple, donc c'était une décision d'abord à deux. Et après, oui, on en a parlé, et ça reste un très bon souvenir pour nous tous, parce que, pour la petite anecdote, en fait, tous les ans, on faisait Paris, Rabat, pour aller passer Noël avec la tante de Nicolas qui était pied noir. Et on faisait ce trajet en voiture et en deux jours. Et on faisait une halte en Espagne. Et lors d'une halte prévue pour un Noël d'une certaine année, ça tombait le 31 décembre. Et en fait, on s'est tous assis en fait en tailleur dans la chambre d'hôtel. Et Nicolas leur a dit, voilà, on a une grande nouvelle à vous annoncer avec maman. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que les grands se sont écriés. On va avoir un petit frère ou une petite sœur, maman est enceinte. Et Nicolas leur a dit, presque, pas tout à fait.
Vous leur avez expliqué, évidemment, comment ça allait se passer.
On leur a expliqué, et en fait, ce qui a été très beau, ce qui s'est passé tous en tailleur sur cette moquette de chambre d'hôtel, ça reste quand même légendaire, c'est qu'il y a deux choses magnifiques qui s'est passées. C'est que d'abord, il y a eu une joie incroyable et qui commençait en fait à tisser ce nid d'amour de l'arrivée de l'enfant.
Oui, la greffe était en train de prendre dès maintenant.
Alors, et il y a eu des peurs aussi qui nous ont déposées. Et ce qui a été beau, c'est qu'on a rejoint et on leur a dit, mais nous aussi, en fait, on a peur. Nous aussi, évidemment, on part dans un inconnu, on ne saisit pas ce qui va se passer.
C'était une aventure familiale. Alors, vous disiez, les démarches administratives, évidemment, c'est compliqué. On vous a accusé même d'être boulimique d'enfant. On n'a pas compris votre démarche à l'administration française. Ça a été donc un combat difficile, ça a été douloureux. Mais votre détermination a payé. On vous a proposé d'adopter Marie, pupille de l'État. Elle avait 6 mois, porteuse de trisomie 21. C'était il y a 9 ans. Comment ça s'est passé, la première rencontre? Est-ce que tout de suite, vous êtes sentie mère?
Alors, c'est une question qui m'a taraudée longtemps. Toute la démarche, en fait. Et oui, je me suis sentie mère immédiatement quand j'ai eu Marie, Marie-Garance et Frédéric dans les bras. Mais en fait, j'ai compris que j'étais mère avant. Quand on a commencé à pousser les portes du Conseil général, finalement, j'étais déjà mère. Quand on s'est battu pour les avoir, quand on l'a annoncé à nos enfants, quand on l'a annoncé à nos familles, où ça a été compliqué pour eux de recevoir aussi,
de
comprendre. En fait, on était déjà, il y avait quelque chose déjà qui avait grandi en nous. On était déjà parents, bien avant la rencontre.
Et qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que bon, quand même, on se dit, vous avez une petite fille, vous avez donc 7 enfants, Marie porteuse de trisomie. On se dit forcément, il y a des rendez-vous médicaux, ça fragilise, ça fait vaciller l'équilibre d'une famille parfois. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une nouvelle procédure pour adopter Marie Garance?
Marie, quand elle est arrivée dans notre famille, contre toute attente, ça s'est vraiment assez vite bien passé. Alors, c'est vrai que, voilà, on n'a pas vécu, c'était les premiers instants, mais ce n'était pas du tout ce qu'on nous avait énoncé. On nous avait quand même bien préparé au fait que notre couple allait sans doute exploser, parce que c'est les statistiques, et que nos enfants allaient quand même très mal le vivre. Donc, fort de cette expérience quand même particulièrement heureuse et joyeuse, hein, c'est généralement pas ce qu'on annonce quand on va adopter un enfant handicapé, eh bien voilà, au bout d'un moment, on a senti le désir et on s'est senti prêt à une juste mesure de pouvoir accueillir un autre enfant porteur d'handicap.
Ça s'est passé comment alors, l'arrivée de Marie Garance dans la famille?
De Marie?
De Marie Garance.
Oui. Eh bien, Marie Garance, elle avait 18 mois. Elle est lourdement polyhandicapée, donc c'est un gros mot. Elle est handicapée mentale et physique. Et quand on l'a vue pour la première fois, elle a explosé de rire. Donc évidemment, elle a explosé nos cœurs et on a compris la force du langage au-delà de la parole.
Vous avez créé un lien particulier, oui, J'imagine, avec elle. Alors, 2 ans plus tard, c'est Frédéric qui est entré dans vos vies. Il était plus grand, Frédéric, 2 ans et demi. Ça a changé quelque chose, le fait qu'il soit plus grand, pour créer le lien?
Oui, ça a énormément changé. Je me suis sentie mère aussi, mais par contre, l'adoption a été beaucoup plus dure, beaucoup plus douloureuse. Frédéric avait beaucoup souffert. Il n'est pas du tout touché dans son intelligence. Il a une pathologie au cervelet. Mmh. Il était nourri par gastrostomie, donc il avait quand même des réels un handicap. Mais Frédéric, ce qui est aussi merveilleux, c'est qu'il nous a tellement mis à terre qu'il nous a obligés à tout réinventer. On est reparti à zéro. On s'est senti très humble face à l'arrivée de cet enfant, parce que ça nous a dépassés, ces émotions nous ont dépassés, sa souffrance nous a dépassés, mais on a recréé un équilibre, un bel équilibre. Et puis, on a traversé ça ensemble. C'est ça qui est beau, tous ensemble.
Parce qu'il est arrivé avec des traumatismes, en fait. C'est ça qui était difficile à gérer.
Il était très, très blessé. En fait, comme il n'est pas touché dans son intelligence, mais qu'il a quand même une pathologie, il n'a pas été mis à l'adoption tout de suite. Il faut savoir qu'un pupille de la nation, quand il n'est pas dit à particularité, au-delà des délais de réserve qui sont de 2 mois, quasiment à 2 mois et 1 jour, ils sont dans les bras d'une famille, parce qu'il y a beaucoup de familles
bien
qui
sûr.
Attendent. Et ce n'est pas le cas, en fait, pour les enfants porteurs de handicap. Et en fait, ils ne sont pas mis à l'adoption tout de suite. Ça dépend, en fait, parce que si on n'a pas assez de retours sur leur pathologie, lui, il avait une pathologie orpheline, donc on ne sait pas ce que ça va générer, en fait, dans le futur. On ne peut pas, pour eux, les services sociaux se disent, on ne peut pas le proposer à une famille parce qu'on ne sait pas ce que ça résulte, en fait. On ne sait même pas vraiment les soins qu'il faut y mettre.
Mais vous, vous étiez prêt à vivre ça ?
Oui, parce que nous, on se disait que peu importe qu'on connaisse toute la pathologie, nous, c'est notre philosophie de vie de se dire qu'on se met au rythme de l'enfant et qu'on avance avec lui. Et puis, on sait très bien que sur tout enfant, tout avenir est incertain. Et donc, en fait, c'est une posture, en fait, de se dire qu'on accompagne l'enfant et on est là pour lui et on avance dans le présent.
Et quelle richesse aussi dans votre famille d'avoir tous ces profils-là et toutes ces spécificités. Oui. Et là, je mets là-dedans les 9 qui ont forcément des spécificités chacun. Vous arrivez justement à consacrer du temps aux 9 enfants parce que là, au-delà du handicap, de l'adoption, vous êtes maman de 9 enfants.
Bien sûr.
Comment vous faites ?
Bien sûr, et Agathe, vous avez raison, il ne faut pas les oublier. Et souvent, c'est vrai qu'on est invité et on nous parle des 3 derniers. Et combien
quelle
les
belle photo de famille, là, pour moi.
Et combien les 6 grands sont riches de particularités et ont besoin d'avoir un ajustement aussi propre pour nous. Notre souci avec Nicolas, c'est quand même de pouvoir proposer et accompagner chacun de nos enfants sur leurs spécificités et sur on ne les élève pas en tribu. Donc après, bien sûr, trouver du temps. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est 2. Et Nicolas, ce n'est pas seulement un géniteur ou un adoptant, c'est un vrai papa qui s'investit aussi dans cette relation. Et on essaye au jour le jour. Voilà, l'équilibre est toujours incertain, hein, c'est évident. Mais on s'efforce de travailler ça.
Et nous accueillons tout de suite le docteur Marie-Odile Pérouse de Monclos. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, ancienne chef du service de psychologie et psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et puis vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'appelle « Adoption internationale de la rencontre à la filiation ». On le voit sur l'écran. Alors, pour toutes les familles qui hésitent et qui sont inspirées par le témoignage de Clotilde, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'adopter un enfant porteur de handicap ? Ce n'est pas une petite décision. Et on l'a vu chez Clotilde, il a fallu qu'elle mûrisse aussi.
Alors, effectivement, donc, bon, en général, c'est un cas un peu exceptionnel quand même,
oui,
le cas de Clotilde. Et les familles que nous rencontrons,
c'est une vocation,
en général, la plupart du temps, n'ont pas eu d'enfant biologique. Et ont quand même un accès à la parentalité relativement long et complexe. Donc la préparation pour la parentalité adoptive, effectivement, demande un long cheminement, c'est-à-dire de faire le deuil auparavant de d'autres types de parentalité, en particulier biologique, même après un parcours de PMA, c'est souvent un parcours assez traumatique. Et il faut accepter, je dirais, que d'avoir un enfant qui n'est pas de soi, et surtout, actuellement, on a beaucoup d'enfants qui sont dits à besoins spécifiques et qui ne sont pas des bébés au moment de l'adoption. Donc, ça demande d'accepter aussi un enfant qui a déjà une histoire, qui a une histoire qui, en général, n'est pas simple, qui est le plus souvent traumatique, soit traumatique au niveau psychologique et quelquefois aussi au niveau physique. Donc, ça demande une véritable préparation personnelle. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup milité, j'irai auprès du ministère pour qu'il y ait aussi des groupes de préparation à la parentalité adoptive. Je crois que c'est entre les fédérations, je dirais, de parents adoptifs qui font des conférences, qui organisent des informations tout à fait intéressantes. Et puis, la préparation individuelle, il y a aussi, je dirais, cette étape intermédiaire qui est tout à fait intéressante, qu'on a mis en place depuis quelques années. Ce sont des groupes de préparation avec plusieurs futurs parents. Qui peuvent échanger, donc qui sont dans une espèce de dynamique groupale et de reconnaissance réciproque, et aussi qui se confrontent à ce que c'est que la réalité d'une parentalité adoptive, qui est quand même assez différente de la parentalité biologique, même si ça rencontre, ça interroge les mêmes étapes de développement de l'enfant.
Docteur, on a reçu une question de Stéphanie. Elle a adopté un petit Alexis il y a 8 ans et elle vient de lancer une nouvelle procédure d'adoption. Regardez sa question.
Ce nouveau projet d'accueillir un enfant soulève beaucoup de questions auprès d'Alexis, donc concernant sa propre histoire, mais également concernant l'histoire de ce futur enfant qui, on l'espère, devrait arriver à la maison. Donc ma question est de savoir comment le rassurer, quels mots utiliser pour répondre au mieux à ses interrogations.
Alors, la première chose, c'est qu'un enfant doit être préparé, enfin doit être informé de son adoption, donc, et du parcours général que les parents ont fait par rapport à ça, de son histoire. Et l'arrivée d'un nouvel enfant vient effectivement, mais comme l'arrivée d'un enfant biologique, vient interroger comment lui est venu au monde, comment, quelles ont été les différentes étapes. Donc, pour le rassurer, je crois qu'il faut...
Des mots simples. Expliquer simplement ce qui s'est passé.
Ouais. Expliquer simplement, être toujours dans la clarté et puis surtout la transparence, en s'adaptant aussi à l'âge de l'enfant. Oui. C'est-à-dire qu'on
n'en prend pas... Mais là, 8 ans, on peut quand même y aller, dans l'explication. 8 ans,
c'est... On peut y aller tout à fait. Ouais. Et plus les choses sont simplement et clairement expliquées et dans la vérité, plus les enfants l'acceptent. Plus c'est intégré.
Alors, on a reçu une question en vidéo d'Alexandra, vous allez voir... Être une maman, c'est pas simple, mais être une maman, quand on a adopté, ça soulève aussi d'autres questions, la sienne en vidéo.
Salut les maternelles, j'avais une question par rapport à l'adoption de ma fille. Ça a beau être la chair de ma chair, mais quand elle fait des bêtises et que je dois la gronder, je culpabilise grandement, comme si j'avais pas de légitimité auprès d'elle ou que du coup, c'était un coup de canif que je faisais entre guillemets dans le contrat. Donc si vous avez quelque chose pour m'aider, ce serait cool, merci.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette maman ?
Alors, la question de la légitimité, elle est très classique. Elle est à travailler dans la parentalité adoptive, tout simplement parce qu'il y a certains parents qui se sentent en dette par rapport aux parents biologiques, par rapport à l'histoire de l'enfant. Et c'est vraiment un des objets de la préparation à l'adoption. Et un parent qui aime ses enfants l'éduque, lui met un cadre et doit à certains moments lui poser des interdits. Donc ça fait tout à fait partie du fait d'être parent.
De son rôle.
Voilà, de son rôle.
La première question est envoyée par Sophie. Comment préparer les enfants biologiques à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur adoptée ?
Alors, je crois qu'il est important que les enfants comprennent qu'il y a plusieurs formes de famille. Je crois qu'on est bien placé actuellement en 2022 pour le savoir, entre les familles recomposées, les familles homoparentales et les familles adoptives. Donc, je crois qu'il faut déjà informer de ça les enfants et puis expliquer ce que c'est que le parcours d'un enfant et pourquoi aussi les parents ont décidé de se tourner du côté de l'adoption et pas du côté de la parentalité biologique, soit pour un problème de stérilité, soit par conviction personnelle. Et qui sous-entend, je dirais, tout un parcours, comme par exemple Clotilde l'a expliqué tout à l'heure.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les enfants, ils ont une souplesse d'esprit. On peut tout leur expliquer aux enfants, ce que vous disiez tout à l'heure.
Fait,
si on utilise les mots adaptés, ils s'adaptent à tout, ils sont fermés sur rien, les petits.
Exactement. Il faut s'adapter à leur âge, leur expliquer les choses très clairement. Mais je crois qu'à la fois, l'enfant est fragile, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à lui, à la fois, il est beaucoup plus adaptable aux évolutions et à partir du moment où il y a, une sincérité des parents par rapport à leur parcours et leur démarche, eh bien, l'enfant va l'accepter. Après, il peut se comporter comme tout enfant aîné quand il y a un suivant, un
puis-né qui arrive. Oui, il peut y avoir un petit rejet quand même.
Ouais, avec un rejet, une jalousie ou un petit sentiment d'abandon. Mais je veux dire que l'on retrouve chez tous les enfants.
Très classique.
Très classique.
Clarisse vous demande comment se construit l'amour, l'attachement des parents adoptifs. Est-ce que c'est la même construction qu'avec un enfant biologique ?
Alors, ça, c'est une très, très bonne question, parce que la question de la construction du lien, elle est au centre du processus d'adoption. Il faut savoir qu'un lien d'attachement, il ne se construit pas en une semaine. C'est-à-dire quand une personne dit « Ah, je me suis attachée tout de suite à mon enfant » ou « Mon enfant s'est attaché tout de suite à moi », ça n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une attirance, une affection, mais un lien d'attachement, il se construit en plusieurs mois. Donc, pour que le lien soit construit de manière solide, il faut que les parents soient quand même disponibles pendant plusieurs mois auprès de l'enfant pour que ce lien se construise petit à petit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'enfant, souvent, il est un peu grand quand il est adopté, et donc il a tout un parcours et une histoire en termes d'attachement. Et s'il a eu beaucoup de carences affectives, beaucoup de ruptures, il peut être très soupçonneux ou, je dirais, avoir des difficultés lui-même à faire confiance à l'adulte.
Donc, ça va nécessiter... peut-être.
Alors, souvent, les gens disent tester. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que c'est tout simplement que l'enfant n'a pas connu, je dirais, la stabilité relationnelle et affective. Il n'en a pas fait l'expérience et il se méfie finalement des risques de perte répétés qu'il a vécu. Donc là, il va faire une expérience nouvelle avec ses parents adoptifs. C'est une relation qui s'installe dans la durée, la continuité. Et il va falloir que les parents soient suffisamment disponibles psychiquement, affectivement, pour lui montrer, pour qu'il ressente de l'intérieur, que cette fois-ci, il va pouvoir se poser calmement dans la relation et faire confiance.
Alors, Christelle nous envoie cette question. Nous avons adopté un petit garçon. Quelques mois après, nous avons appris qu'il souffrait d'une myopathie. Ce fut un choc. Que répondre à « Est-ce que tu m'aurais adopté si tu avais su ?»
Ah, dis donc, c'est une question voilà. Piège, ça.
Ah, oui. Ils sont durs, les enfants, quand même. Hein.
Mais je crois que...
Je pense qu'elle anticipe la question.
Là encore, quand on devient parent, ben, on accepte, je dirais, l'enfant réel que l'on va avoir, qu'on soit parent biologique ou parent adoptif. Et donc, on n'est pas à l'abri d'incidents, que ce soit des incidents médicaux, des incidents psychologiques, des difficultés dans le développement de l'enfant. Et donc, ça fait partie du tableau classique.
Laura,
réveillez-vous.
Mais non, je réfléchis. Laura, est-il possible de créer des liens aussi profonds qu'avec des enfants déjà grands au moment de l'adoption qu'avec des enfants encore bébés lors de leur accueil ?
Alors,
c'est vrai que c'est différent.
C'est vrai que c'est différent, je dirais, au niveau de l'instinct, je dirais, affectif, enfin, qu'on a auprès d'un enfant, de sentir tout de suite parent ou, je dirais, une envie de protection et de prendre soin de l'enfant. Suivant que l'enfant est bébé ou c'est un enfant grand, c'est souvent assez différent chez les adultes de manière générale. Hein. Ouais. Donc, on met la construction d'un lien avec un enfant plus grand se fait plus dans le temps, je dirais. Mais là encore, il y a vraiment des disparités très importantes entre les parents. Ouais. Hein, il y en a qui se sentent tout de suite parents de cet enfant-là, même s'il est grand, etc. Et pour d'autres, ça nécessite un petit peu plus de temps, mais ça se construit plus dans la durée et la profondeur. Hein.
Après, il y a peut-être quelque chose aussi, c'est quand ils sont tout petits, peut-être jusqu'à 3, 4, 5 ans, on doit faire des choses pour eux, on doit les changer. Enfin, moi, je l'ai vu avec mes beaux-enfants, parce que il y en a qui avaient 3 ans et d'autres qui avaient 8 ans. Ben, même si ce n'est pas du tout une adoption, le lien et l'attachement se fait différemment, parce que celui de 8 ans, on est obligé de s'intéresser finalement à ce qu'il est, etc., mais pas être dans la couveuse, quoi.
Voilà. Dans l'intimité. On est moins dans le maternage primaire avec les grands, effectivement. Et c'est vrai que les soins de maternage que vous décrivez bien favorisent, je dirais, la construction du lien. Mais effectivement, avec un enfant plus grand, ça va être des sorties, partager un jeu ensemble, faire la cuisine ensemble, se raconter une histoire. Donc ça prend des biais différents.
Et ça peut être peut-être plus facile, en tout cas, comme c'est différent, mais ça peut être plus facile parce que tout de suite, il y a un échange avec un petit bébé, c'est un peu
tout
plus
à fait,
compliqué.
Tout à fait.
Alors, Cécile est en demande d'agrément. Nous passons en commission en juin. On demande un enfant entre 0 et 5 ans. Notre dernier va avoir 2 ans, donc l'ordre de fratrie pourrait ne pas être respecté. Elle vous demande si c'est gênant.
C'est un peu inhabituel.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire que très souvent, l'agrément, il est donné en fonction justement de la situation familiale. Et on essaye quand même que ça reprenne un ordre un petit peu logique, comme dans une filiation biologique. Mm-hmm. Après, je dirais que c'est une question de préparation. Est-ce que les parents, eux, sont prêts aussi ? Il faut toujours se situer du côté des parents. Parce que les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, s'adaptent finalement quand les parents sont bien à leur place. Donc, ce sont surtout les parents. Vont-ils s'adapter à un enfant qui est finalement adopté grand, plus grand que leur premier enfant ? C'est plutôt à ce niveau-là que ça se passerait, je pense.
Là, en fait, vous dites que normalement, il faut respecter l'âge des enfants biologiques. Là, en l'occurrence, elle avait 2 ans. Il y a des règles comme ça ? Où ça peut, selon les cas, être différent. Ça, j'arrive pas bien à comprendre.
C'est-à-dire que
pour l'agrément, l'agrément,
il est donné pour un enfant, pour une tranche d'âge d'enfant. Après, encore faut-il qu'en face, il y ait une possibilité d'apparentement avec un enfant qui correspond à cet âge-là. Il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même très peu de jeunes enfants à adopter. Donc, il arrive que les parents aient un agrément, par exemple, pour un enfant entre 0 et 3 ans. Mm-hmm. Et puis, au fil du temps, on leur fait une proposition et ils changent leur agrément pour un enfant plus grand, par exemple, ou avec un handicap. Donc, en fait, les choses sont un peu évolutives.
Julie vous demande si on peut adopter quand on est célibataire.
Alors oui, on peut adopter quand on est célibataire. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup interrogée sur cette question-là. C'est-à-dire que, est-ce que être parent célibataire, c'est plus difficile ou est-ce que c'est une bonne chose par rapport à l'adoption ? Alors, il y a deux aspects différents. C'est que, je dirais, que pour être parent, d'une manière générale, il vaut mieux être deux que seul. Parce que, au fond, en particulier dans l'adoption, l'enfant, il arrive avec des besoins spécifiques au niveau affectif. Si déjà il a eu un parcours difficile, il va avoir besoin d'encore plus de disponibilité du parent adoptif. Donc, admettons, et j'ai eu cette situation à plusieurs reprises dans mes consultations, admettons que le parent qui est célibataire tombe malade et un problème de disponibilité pour une raison X ou Y, eh bien, ça va être plus compliqué de se faire remplacer, alors qu'à deux, c'est quand même une bonne chose, quoi. Mais je dirais que quand on est célibataire, il faut vraiment voir si on a autour de soi, je dirais, un environnement aussi qui est porteur. Hein.
Aurélie vous dit, faut-il intégrer la culture d'origine de l'enfant lorsqu'il vient d'un autre pays ?
Alors là encore, c'est un peu, d'une manière générale, il faut introduire la culture dans le discours par rapport à l'enfant. Mais si vous adoptez un enfant qui est bébé et qui vient d'une culture différente, il sera vraiment assimilé à votre culture. Mm-hmm. Par contre, un enfant grand, on en a un certain nombre, qui arrive vers 8, 10, 12, 13 ans. Lui, il a vécu vraiment à tous les niveaux, je dirais, que ce soit dans la sensorialité, dans la langue, dans les coutumes, dans la façon de manger, etc., dans une culture d'origine qu'il va falloir effectivement respecter. Et on appelle, par la suite, on va créer un espèce de métissage culturel qui va se faire progressivement. Et je crois que l'enfant sera toujours quelque part attaché à sa culture d'origine, même s'il s'intègre très bien dans la culture adoptive.
Vous avez en tête les pays où on adopte le plus en France ?
Alors, ça change. Il faut savoir que le paysage de l'adoption internationale, il change en permanence. Il change en fonction des pays qui s'ouvrent à l'adoption, qui se ferment à l'adoption internationale, en fonction des crises aussi géopolitiques. Et il y a eu des pays, par exemple, quand j'ai ouvert la consultation en 2010, on avait beaucoup d'enfants, venant de Russie, venant d'Haïti, venant de Colombie. Et puis, ces dernières années, on a pas mal de pays d'Afrique qui se sont ouverts à l'adoption.
La Russie, ça a fermé avec le mariage pour tous, non ? Lorsque la loi a été votée ?
Alors, la Russie refuse l'adoption par des célibataires, par exemple, parce que, justement, ils craignent que derrière le célibat, il y ait une homoparentalité. Ouais. Voilà. Donc, pas que ça. C'est aussi que la Convention de la Haye, qui gère au niveau international l'adoption internationale, favorise quand même l'adoption dans le pays d'origine. Donc, et a mis en place toute une politique de protection de l'enfance dans les pays d'origine. Et au fond, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'adoption internationale ne se fait que quand on n'a pas trouvé une solution de protection de l'enfant dans son pays d'origine. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas la Convention de la Haye ou que les pays ne l'avaient pas signée, il y avait des enfants qui partaient comme ça à l'étranger pour l'adoption internationale sans qu'on ait pris toutes ces précautions préalables.
Est-ce que c'est plus difficile d'adopter en France un enfant qui est orphelin ici en France qu'un enfant qui est d'un autre pays ?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a à peu près autant d'adoptions nationales que d'adoptions internationales. Mais par exemple, ça a beaucoup évolué, beaucoup baissé les adoptions internationales, parce qu'effectivement, en France, comme c'est un pays dit, entre guillemets, développé, avec la contraception, le contrôle des naissances, etc., du coup, il y avait très peu d'abandons d'enfants. Et donc, du coup, ou très peu d'enfants orphelins, en tout cas. Et du coup, il y avait beaucoup plus d'enfants, je dirais, adoptables dans les pays d'origine qui n'avaient pas la contraception, qui étaient en situation de crise, etc. Où il y avait plus d'orphelins, par exemple, dans les temps de guerre. Donc, effectivement, il y avait plus de facilité dans les pays étrangers, dans certains pays étrangers. Actuellement, c'est en train de se rééquilibrer. Oui.
Merci beaucoup Marie-Odile Pérouse de Monclos, qui est pédopsychiatre, d'être venue nous voir. Et merci infiniment à Clotilde pour son témoignage. Voilà, c'est la fin du podcast des maternelles. Merci à vous de l'avoir écouté. Je sais qu'en regardant les statistiques, de temps en temps, vous êtes nombreux et nombreuses à écouter ce podcast la nuit. Donc je me dis que si ça se trouve, vous l'écoutez en donnant à manger à votre enfant, à donner à manger à votre bébé, ou alors en cas d'insomnie, ben voilà, si c'est le cas, bon courage à vous. Bon courage à vous, j'espère que vous allez retrouver le sommeil après cet épisode. Ciao tout le monde, à demain pour un nouvel épisode. Ciao.